pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Ce qu'on essaye de faire dans les soulèvements de la Terre, c'est vraiment de faire comprendre la finesse des questions agricoles. Les paysans ne sont pas juste des anti-écolos débiles qui mettent des pesticides partout. Et à la fois faire comprendre aux écologistes la réalité du monde agricole, parce qu'on pense que souvent il y a trop une opposition un peu bébête. On est pris entre les mâchoires d'une tenaille qui piège quiconque s'engage dans la contestation de l'ordre établi. Les États-nations n'organiseront pas la sortie du capitalisme industriel parce qu'elles ont trop de liens et d'intérêts. La mâchoire numéro 2, c'est que les expérimentations, les alternatives et les luttes dispersées restent marginales ou échouent.
Comment vaincre la dictature capitaliste mondiale, l'impérialisme, le colonialisme, les industries destructrices et polluantes, le fascisme, le patriarcat? Comment stopper l'autodestruction de notre espèce et de tout ce qui l'entoure? Ces questions se posent au-delà du mortifère scandale des méga-bassines qui privatisent, polluent et font disparaître l'eau, un commun sans lequel il n'y a plus de vie. Or, les méga-bassines sont l'un des rouages de l'agro-industrie, avec le béton, avec les poisons chimiques, le pétrole, le nucléaire, la violence d'État, le colonialisme, etc., etc. Les méga-bassines sont une pièce de ce puzzle de mort, une cible possible parmi d'autres, et c'est l'une des choses que l'on comprend à la lecture de ce bouquin passionnant intitulé « Première secousse » et signé « Les soulèvements de la Terre ».
S'attaquer au monstre béton, à l'artificialisation, et c'est une partie aussi sur le désarmement. Désarmer l'industrie de l'artificialisation, celle du béton en particulier. Démanteler le complexe agro-industriel et reprendre les terres. Et il y a une partie qui s'appelle bâtir des organisations, qui touche finalement à la question révolutionnaire. Besoin de formes d'organisation un peu conséquentes. Nous, on est souvent perçus comme étant du côté du champ de l'écologie. Du coup, on a dit qu'on prenait la terre depuis autant une question effectivement écologiste que sociale, porter, je sais pas, une forme d'écologie queer et sans frontières. On voulait porter une position sur l'économie de subsistance, pas d'accumulation, et on voulait préciser notre rapport à l'État et au caractère réforme-révolution.
Vaste programme. Mais justement, Première secousse n'est pas un programme, ni un manifeste, ni un bouquin de recettes révolutionnaires. Ce livre remarquable, qui se lit facilement, a été rédigé collectivement par des membres des Soulèvements de la Terre et propose des analyses économiques, historiques, politiques, écologiques et autres. Première secousse est aussi un récit de l'histoire des Soulèvements de la Terre, raconté par des gens des Soulèvements, eux et elles-mêmes. Ça ruisselle d'intelligence, sans dogmatisme, avec humilité et modestie. Car les auteuristes mentionnent aussi leurs incertitudes, les impasses, les questions pour le moment sans réponse et nous invitent à participer à la réflexion. C'est ce qu'ont fait Mona et Nico, deux des auteuristes de Première secousse, venus présenter le livre au Bateau Ivre, à Tours, sur l'invitation de la librairie Les Temps Sauvages. Après un survol du bouquin au précédent épisode, l'émission d'aujourd'hui restitue l'échange entre Mona, Nico et le public. A noter que cette rencontre a lieu début juillet 2024, avant le dimanche du second tour des élections législatives et 10 jours avant la tenue du Village de l'eau à Mel, dans le Poitou, Village de l'eau dont on va beaucoup vous parler dans de prochaines émissions. Mais pour l'heure, Nicolas des Temps Sauvages lance le question-réponse.
Il est finalement assez peu question des comités locaux. Dans le livre, c'est donc des comités qui se sont montés dans un contexte très particulier de volonté de dissolution du mouvement par le ministre de l'Intérieur. Comment est-ce que ça a été pensé ou pas, le fonctionnement, l'autonomie de ces collectifs? En fait, au début des soulèvements, c'est des collectifs locaux construits autour d'une lutte en particulier qui viennent demander un appui. Et là, finalement, il y a des collectifs qui semblent déconnectés de ces luttes locales concrètes-là et qui peut-être, du coup, ont des difficultés à construire une lutte autonome. Donc voilà.
La réalité des comités locaux est très différente suivant les endroits. On parle pas assez des comités locaux aussi parce qu'au moment où on a écrit le bouquin, c'était une histoire qui était beaucoup plus jeune que le mouvement et du coup on s'est dit bon, faut qu'on reste un peu prudent. On a envie d'être plein d'espoir, d'optimisme, d'ambition avec les comités locaux sur ce que ça pourrait devenir. mais on n'est pas sûr. C'est vrai qu'à la base, on s'est dit, on ne va pas faire comme font les organisations, de dire, allez, on fait une organisation, et puis du coup, il faut qu'il y ait ce truc qui se duplique de manière un peu similaire, où tu as, bon, ce n'est pas du tout pour dire que c'est mal, mais vous voyez, et, je ne sais pas, les groupes XR, les groupes antifascistes, où tu te dis, ah, tu fais naître le truc, puis il faut qu'il y ait des trucs locaux. Nous, on s'est dit, ah, on part plutôt de mettre ensemble ce qui est déjà existant au niveau local, là, ce que tu disais. Du coup, c'était beaucoup débattu. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pertinent de faire naître des comités locaux? Surtout aussi qu'on mène des actions nationales, quoi. Le truc des soulèvements de la terre, c'est pas du tout pour dire il faut qu'il continue une multiplicité d'actions locales, mais ce qu'on fait de particulier avec les soulèvements, c'est dire à un moment on va conjuguer nos forces à tel endroit, à tel moment, de plein d'endroits, pour essayer d'appuyer au bon moment, pour faire levier. Du coup, la question des comités locaux n'était pas évidente. Il y a des premiers comités locaux qui étaient nés avant l'annonce de la dissolution, mais après, il y avait le côté un peu pied de nez. C'était, vous allez nous rendre illégal, vous allez nous faire illégaux, vous allez nous faire disparaître. Ben non, c'est en train de réapparaître de partout. Quelque part, ça aurait pu en rester là et ça aurait été incroyable. Sauf que de fait, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça que, de toute évidence, tout un tas de comités locaux voulaient. Enfin, je dis ça, c'est-à-dire faire un simple geste de soutien, d'insoumission, de pied de nez à Darmanin. Et de fait, pour tout un tas de gens, ça faisait sens de s'organiser à l'échelle locale, en disant on a un endroit, on va reprendre cette composition un peu particulière des soulèvements, qui est ce truc où tu as des paysans, des jeunes issus des mouvements climatiques, des autonomes, des gens qui sont pris dans telle ou telle lutte locale, et puis ça, ça ne va pas juste se vivre tous les 6 mois dans une grande assemblée nationale des soulèvements, une assemblée hexagonale, mais ça va se vivre plus au quotidien, à l'échelle locale. Sur l'autonomie, ça nous a beaucoup posé question, parce qu'on s'est dit, enfin, je dis nous, un peu les gens qui se sentaient un peu en responsabilité de dire « Ah ben voilà, nous on pense un peu les actions nationales, on pense les commissions, mais cette échelle locale-là, elle se lance. Il ne peut pas y avoir justement un effet de verticalité qui va dire « Ah, vous êtes juste là pour mobiliser, faire des covoiturages pour les actions nationales » ou quoi. À un moment, si tu as des comités locaux qui se fondent, il faut qu'ils puissent aussi décider de leurs propres actions locales, leur propre direction, de leur propre langage en interaction avec un mouvement. Et ça, j'ai l'impression que c'est encore un peu en jeu. À plein d'endroits, les gens disent, il n'y a pas besoin du comité local, puisque nous, j'en sais rien, on a déjà le comité BNM, on va pas superposer des couches comme ça. À d'autres endroits, les gens se sont dit que c'était tout à fait pertinent. Et assez vite, on s'est dit, il faut qu'il puisse y avoir des actions au calendrier hexagonal, mais aussi des actions locales à partir du moment où elles sont dans le cadre un peu soulèvement, c'est-à-dire actions directes de type blocage, occupation, désarmement, et sur les thématiques qui sont les nôtres, quoi, de l'accaparement, l'artificialisation. Bah, chacun, chaque comité local aurait qu'à décider en autonomie, sans passer par un aller-retour avec un je ne sais quel comité national, de dire bah, ça c'est nos actions. Et du coup, maintenant, il y a une vie des comités, il y a des endroits, je pense que ça dépend beaucoup des régions, il y a des endroits où il y a des assemblées régionales des comités, il y a de plus en plus d'actions locales des comités qui sont menées, c'est bien. Je pense à un moment assez classe pour voir quelle force ça pouvait avoir les comités locaux. C'était quand s'est lancé avec plein d'autres orgas la campagne nationale contre Lafarge, déjà pour continuer à attaquer Lafarge, mais aussi parce que c'était les 1 an de l'action de Bouc-Belair qui avait été attribué au soulèvement de la terre parce qu'on avait aussi mené d'autres actions contre Lafarge, et à ce moment-là, il devait y avoir les 1 an de cette action à Marseille qui a eu pas mal de retentissement, et du coup, il y a plein de comités locaux à ce moment-là qui ont suivi cette idée, ah, il y a une campagne d'action locale contre Lafarge, et c'était incroyable parce qu'il y a eu 40 actions locales un peu ouf, mais très différentes, quoi, avec des gens qui sont allés péter des machines la nuit, d'autres qui ont occupé des sites, mais un peu comme ça, tranquille, d'autres qui sont allés à 100 les désarmer, comme à Rouen, et là, on voyait que ce truc des comités locales, qui n'est pas juste des actions hexagonales une fois tous les 2 mois, bah, c'était un peu incroyable quand on se donne un peu une cible commune, mais juste qu'il y ait aussi une vie des comités avec les cibles et les actions que se donnent les comités, c'est hyper bien aussi. Mais après, chaque comité devrait un peu s'exprimer.
Moi, je voulais juste intervenir pour le collectif Sud Touraine, donc on s'est créé après la dissolution, comme tout le monde, dans un pays très rural, on est assez éloignés les uns des autres. Et assez rapidement, donc à part venir en manif à Tours, on s'est dit qu'il fallait faire un truc par chez nous. Et donc on s'est emparé des greniers. Et le livre, La première secousse, il retrace bien ce que c'est que cette idée d'aller mettre la main dans les champs et aller préparer des légumes qui vont nourrir en fait les luttes à venir. Donc c'est notre manière à nous, en tout cas en ruralité, d'avoir essayé de créer du collectif. Donc on est voilà, une dizaine, une vingtaine, ça dépend des moments, à faire des betteraves, des pommes de terre, tout ce que vous voulez. Mais donc voilà, c'est pour dire qu'en ruralité, ça se joue comme ça, et ça a été en tout cas notre manière locale de faire vivre ce comité qui est plus rural que celui de Tours, sans que ça nous empêche de venir aux événements Tourangeau. Et certains Tourangeau, ça y est, commencent à venir dans nos greniers. Enfin, il commence à y avoir des espèces d'allers-retours dans les chantiers collectifs. Voilà.
pour l'action des soulèvements de Tours en décembre et en collaboration avec la Confédération paysanne. On a eu vent qu'il y avait une petite méga-bassine qui allait se construire dans le sud du département. Et on a pris la chose au sérieux. On a réussi à organiser une manifestation sur le lieu de la future bassine. Et à la suite de cette manifestation et de ce rapport de force, le paysan a retiré sa demande de déclaration de faire cette bassine. Enfin, c'est une action commune, oui, conf, et puis et soulèvement, et aussi tous les urbains de Tours qui nous ont bien aidés pour cette action, qui a porté ses fruits, mais qui on reste quand même sur le qui-vive, parce que les gens de la FNSEA, en général, c'est quand même des battants. Hein, on est des chefs d'entreprise, c'est pas un petit groupe de 150 personnes qui va nous enquiquiner longtemps. Donc je pense qu'ils vont revenir à la charge en affûtant un peu plus leurs fusils.
Sur la bassine qui était prévue en Indre-et-Loire, la base de la mobilisation est née aussi d'un collectif local d'habitants et d'habitantes et a émergé aussi d'une veille un peu qui était composée de gens qui travaillaient dans différentes structures locales, des agriculteurs, des agricultrices, des gens qui travaillent sur les rivières. Et voilà, et du coup, c'est quand même toute la mobilisation aussi passée autour des bassines et tout le réseau aussi issu de la lutte existante qui a fait émerger une interaction qui a pris en très peu de temps, qui a été une vraie synergie. Et cette base vraiment locale des habitants-habitantes a été vraiment fondamentale pour irriguer le territoire de connaissances à la fois sur le projet, à la fois sur le modèle bassine. Et en très peu de temps, on a vu qu'il y a eu un rapport de force qui s'est fait, qui a entraîné le recul de l'exploitant, qui a vraiment craint d'avoir les soulèvements dans son jardin. Quoi. Il y a vraiment eu comme ça un rapport de force qui était très très éclair, quoi, très, très, très fulgurant. Et en effet, les gens ne sont pas dupes. Hein. Il y a des bruits qui courent, que le projet se restructure d'une autre manière. En tout cas, voilà, je voulais insister sur la synergie locale qui était vraiment fondamentale.
À Sainte-Soline, c'est toujours en construction, la bassine n'est pas finie, il y a deux autres chantiers qui se sont ouverts dans les Deux-Sèvres, mais dans différents autres départements, il y a des projets de bassines qui ont reculé, qui ont renoncé avant d'être commencés, parce qu'ils savent qu'il y a un rapport de force qui est installé et qui pourra arriver. Enfin, voilà, c'est pas un exemple isolé. C'est un exemple encore trop rare, mais pas isolé non plus.
Oui, moi, je n'ai pas lu tout le bouquin, mais il y a une partie où vous parlez des ouvriers agricoles, de toute la classe populaire et des classes ouvrières. Et du coup, on voit quand même dans nos mouvements qu'on est assez uniforme. Quelles sont vos pistes, justement, pour mobiliser les ouvriers des usines où il y a du désarmement? Comment on les met plutôt avec nous que contre nous? Enfin, voilà.
Effectivement, c'est toujours une question qu'on a en point de mire quand on prépare une action, quand il y a un groupe local qui vient nous voir pour nous dire qu'on aimerait bien faire une action soulèvement à tel et tel endroit. C'est sûr que c'est en tout cas un des enjeux qu'on a, c'est à chaque fois de se dire ok, bah là par exemple, si on va aller faire une manifestation contre telle usine ou tel endroit, que pensent les travailleurs dans cette usine-là? Est-ce qu'on a des contacts syndicaux avec eux? C'est sûr qu'on veille à ça en tout cas, et ça marche pas. Pas forcément toujours, mais après, par exemple, quand là, il y a une action contre Green Dock à Paris, des entrepôts logistiques qui doivent se faire en Île-de-France, sur les berges de Seine-Saint-Denis, il y avait des contacts avec des travailleurs sur place et des syndicalistes sur place. Et il y a d'ailleurs eu des actions qu'on devait faire ensemble qui ont été annulées au dernier moment, parce qu'en fait, bah, les syndicalistes avaient obtenu gain de cause du fait qu'on allait faire une action ensemble avec eux. Donc ça avait mis un rapport de force tel qu'en fait, voilà, ils avaient finalement obtenu ce qu'ils recherchaient. En fait, à la fois, le fait de faire des actions soulèvement, des fois, peut servir finalement au sein des usines à faire évoluer des conditions de travail. Après, c'est toujours en débat, parce que c'est sûr, par exemple, sur l'agro-industrie, en tout cas à Saint-Colomban, on réfléchit beaucoup à ça. C'est dans le sud de la Loire-Atlantique, et il y a des terres de bocage qui sont prises par à la fois des carrières de sable GSM et Lafarge. Les carrières avancent main dans la main avec des maraîchers industriels qui eux vraiment s'étendent. Donc on a fait une action qui a été décriée, qui nous a d'ailleurs valu la procédure de dissolution où on a arraché quelques salades. Ce qu'on attaquait, c'était l'étendue de ces serres industrielles. Le Sud-Loire est recouvert de bâches plastiques où il y a du muguet qui est fait sous serre chauffée de la mâche. Et en fait, ça, c'est des productions vraiment intensives. Et il y a une main-d'œuvre immigrée, sans papier immigrée, qui travaille vraiment de manière très précaire pour ces maraîchers-là. Et ça, on essaye d'établir des contacts avec eux pour en fait, qu'il y ait des actions qui soient opérées avec eux. Parce qu'on sait que c'est une main-d'œuvre précarisée et que voilà, c'est des conditions de travail où les gens ils travaillent vraiment dans des chaleurs extrêmes. Voilà, il y a plein de tentatives comme ça qui sont faites. Moi, je pense que c'est toujours insuffisant, mais on y travaille vraiment, quoi.
Moi, je vais donner deux pistes qui sont comme deux mini-histoires qui nous ont marqués. Il y en a une qui est antérieure au soulèvement de la Terre, qui est, vous voyez, dans l'histoire du mouvement anti-aéroport, à un moment, on a eu des contacts réguliers avec quelqu'un qui était un syndicaliste de Vinci, un syndicaliste CGT. Et puis, il est venu, on s'est connus, nous, on bougeait pas mal avec les syndicats à Nantes, CGT, Solidaire et machin. Donc, il y avait un truc un peu de lien. Et puis, à un moment, lui, à force de passer sur la ZAD, il a réussi à ce qu'il y ait un truc qui n'était pas du tout évident dans l'histoire de la CGT, qui est une prise de parti du syndicat Vinci, puis ensuite de l'ensemble des syndicats de ce secteur-là de la CGT, des syndicats CGT Vinci, qui disaient on ne participera pas à la construction de cet aéroport, et qui était un communiqué manifeste. Non, mais c'était un truc où ils disaient on ne va plus participer à la construction de ces infrastructures en usine, on veut bien faire des écoles, on veut bien faire des trucs utiles pour les gens, on veut bien faire des hôpitaux, mais ça, c'est plus possible. Et qui disait, qui appelait en fait à utiliser son droit de retrait pour ne pas participer au chantier. Et ça, par rapport à la tradition, on pourrait dire aussi productiviste, un certain plan ouvriériste de ce qu'était la CGT, le PC, qui était pour l'aéroport, en fait, le PC. À l'époque, c'était vraiment pas rien comme prise de position, et c'est des moments comme ça. Et ces moments-là, ils nécessitent une réciprocité. Ça peut pas être juste des syndicalistes qui, à un moment, disent bah, « voilà, on va se mettre de votre côté, on va utiliser votre droit de retrait ». Et le deuxième exemple que je donnais, c'est beaucoup plus récent, en fait, c'est qu'il y a des ouvriers qui bossent sur les chantiers du Grand Paris. Vous voyez, nous, on a fait ces actions sur Lafarge pour dire que ces chantiers ne doivent pas se faire quelque part. Enfin, beaucoup sont nuisibles, problématiques, les chantiers des Jeux Olympiques, etc. Et il y a des ouvriers sans papier qui sont venus nous voir, qui s'organisent avec les Gilets Noirs, avec les comités de sans-papiers, et qui sont venus nous solliciter pour faire une action commune, pour dire « Ok, on bosse sur ces chantiers, mais nous, on va faire une action avec les soulèvements de la Terre pour obtenir des régularisations et des papiers. » Et c'était tout à fait important pour nous de leur apporter cette solidarité. Il se trouve que cette action ne s'est pas faite parce qu'il y a quelque chose qui s'est ébruité autour de ça et qui fait qu'en fait, ils ont été contactés et les gens leur ont dit « Ne faites pas cette action, on va vous donner des rendez-vous pour des régularisations. » Et du coup, quelque part, il y a quelque chose qui s'est obtenu autour de ça, qui n'empêche pas qu'on va continuer à envisager des formes communes avec eux. Pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose ensemble parce que ce projet-là ne s'est pas fait, même si, voilà. Mais pour nous, c'est tout à fait essentiel, quoi. On ne peut pas juste s'attaquer à des chantiers et puis pas se préoccuper de soutenir les gens qui bossent dessus.
À force de nous emmerder, les rois finissent, le capitaine. C'est la prérogative d'interdire la fête. Nous sommes nés pour marcher sur la tête des préfets.
C'est la prérogative d'interdire les fêtes. Nous sommes nés pour marcher sur la tête des préfets.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
Tous les 5 ans, on se demande lequel élire. On préférait de loin choisir lequel oxyre.
Tous les 5 ans, on nous demande lequel élire. On préférait de loin choisir lequel oxyre.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
Paraît que c'est pour notre bien, les méga bassines, on le leur rendra bien à grand coup de guillotine.
Paraît que c'est pour notre bien, les méga bassines, on le leur rendra bien à grand coup de guillotine. À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
Quand c'est pas la crise, c'est la fin de l'abondance, comme on appelle la maître, on terme leur décadence.
Quand c'est pas la crise, c'est la fin de l'abondance, comme on appelle la maître, on terme leur décadence.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent, les capitaines.
À force de nous emmerder, les rois finissent, les rois finissent.
À force de nous emmerder, les rois finissent, décapités.
J'ai beaucoup de mal à expliquer que nous sommes agressés, qu'il y a une agression qui est commise et que c'est légitime de se défendre. Et après, il y a cette ligne de crête entre rapport de force et violence. Le rapport de force, dans les médias dominants, il y a une confusion qui est entretenue dans la tête de l'opinion publique entre rapport de force et violence. Je suppose que ça doit alimenter aussi des débats chez vous.
Oui, il y a toute une partie sur la question de la confrontation. Ce qu'on appelle aussi le paradoxe de la confrontation, et on commence par discuter de ce rapport à pourquoi, contrairement à d'autres mouvements, nous, on n'a pas choisi de se définir comme non-violent. En partie parce qu'on pense que cette question-là, elle est piégée, et que dès qu'on les emmerde de manière un peu substantielle, de toute façon, on n'échappe pas à être qualifié de violent, et que de vouloir dire absolument non, nous ne le sommes pas, ça nous piège dans une espèce de binarité idéologique qui est aussi une binarité de classe. Vous voyez, à plein de moments aussi, le fait de dire ah non, on n'est pas violent, c'est aussi un luxe à certaines conditions de vie, à certaines conditions sociales, que c'est moins évident à plein d'endroits, et qu'à des moments, sans à aucun moment être fétichiste de la violence, en faire l'apologie de la confrontation, on voit bien tous les pièges qu'il peut y avoir autour. On se dit qu'à des moments, on se doit se mettre en disposition de résister physiquement à la police, à des tractopelles, de passer une ligne de police pour atteindre un objectif, et qu'il faut faire très attention à tous ces enjeux-là. Mais en tout cas, effectivement, nous, on n'a pas choisi de se définir comme non-violent, et on parle de ces questions de rapport à la confrontation.
Il y a 200 flics dans la bassine et on va s'en débarrasser.
Il y a 200 flics dans la bassine et on va s'en débarrasser.
Il y a 2000 flics dans la bassine, on va s'en débarrasser.
Il y a 2000 flics dans la bassine et on va s'en débarrasser.
Hé hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, sous les bombes. Hé hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, lacrymo.
Hé hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, sous les bombes.
Hé hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, lacrymo.
Y'a 3000 flics dans la bassine, on va s'en débarrasser.
3000 flics dans la bassine, on va s'en débarrasser.
Y'a 3000 CRS dans la bassine, on va s'en débarrasser.
3000 CRS dans la bassine, on va s'en débarrasser.
Eh oh, c'est rigolo quand on a le vent dans le dos.
Eh oh, c'est rigolo quand on a le vent dans le dos.
Petite question, j'ai trouvé que dans les événements auxquels on a pu participer, il y avait une super commission soins, prise en charge de la violence et de la santé mentale de chacun chacune. Du coup, derrière ça, j'y vois aussi des partis pris féministes. Et je me demandais, dans le mouvement et à l'origine aussi, comment la question féministe et queer, comment elle alimente aussi justement à la fois le rapport à l'auto-organisation et à la fois le rapport aussi à se mettre en lien avec des collectifs qui n'ont pas forcément tout à fait ce type de parti pris. Et à la fois aussi en lien avec la question de l'action directe. Comment ça vous anime ou pas les questions féministes et voilà.
Mais c'est vrai. Non, mais parce que je me sens obligée. Enfin, il y a un truc compliqué que, comme tu as posé une question, tu vois, sur le féminisme, je me sens obligée de répondre. Et je me suis dit, on aurait dû inverser. J'aurais pu répondre sur la violence et. J'aurais plus su quoi dire. On ne va pas dire que c'est au cœur de nos réflexions. Je pense vraiment pas assez, en tout cas, ces questions-là. Enfin, on se considère féministe, en tout cas, par exemple, les personnes qui sont dans les soulèvements, dans le groupe, etc., dans les groupes de coordination. Après, on essaye aussi que les espaces soins ne soient pas portés uniquement que par des femmes, que souvent, quand même, majoritairement, c'est plus des femmes ou des non-mecs hétéros cis qui vont se retrouver dans ces espaces-là. Mais bon, on essaye qu'il n'y ait pas que ça. Et après, sur le rapport à l'action, je pense que ce n'est pas juste une question de genre, mais poser un certain rapport offensif, un certain rapport à la violence. On n'est pas tous égaux face à comment on reçoit la violence d'État en face, ça c'est sûr. Ça rejoue souvent aussi des différences de genre, mais pas que. On va le travailler, par exemple, effectivement, qu'il y ait des commissions soins, donc en ayant une attention à ce que ces choses-là ne soient pas vécues comme traumatiques. On cherche à les travailler collectivement, donc à faire aussi que ces choses soient dépassées collectivement aussi, qu'il puisse y avoir aussi des groupes non mixtes, par exemple, qui s'emparent de ces questions. Je sais que, par exemple, au programme de juillet du village de l'eau, il y a vraiment plein d'ateliers pratiques pour justement dire comment on s'organise ensemble, comment on va ensemble en manif, comment trouver son groupe affinitaire, par exemple. Voilà, tu vas aller en manifestation. Et donc ça, c'est plein d'enjeux aussi qui peuvent être pris sous un angle féministe, de se dire on se redonne aussi du pouvoir là-dedans et de la force ensemble, quoi. Chacun n'y va pas avec ses peurs et ses craintes. Voilà. Moi, j'ai pas le temps d'y participer, mais il y a un groupe féministe qui s'est monté dans les soulèvements pour justement penser des manières d'aller entre femmes aux manifestations et ou de mettre un accent féministe, de porter vraiment des luttes qui soient avec un accent féministe, quoi. Mais c'est en germe. Enfin, je ne crois pas qu'il y a eu de choses concrètes à ça encore, mais je sais que de plus en plus, pendant les interludes des soulèvements, il y a des groupes comme ça, non mixtes, qui se réunissent pour penser ça. Voilà.
Justement, je voulais en profiter pour parler d'expériences concrètes. Il y a un mois, du côté de Castres, dans le cadre de la lutte contre l'A69, il y avait un rassemblement qui s'appelait Roue Libre. Il y avait plusieurs cortèges, dont un cortège féministe et queer, qui est parti en tête, d'ailleurs. Il n'y avait pas que des non-violents. De même, dans la programmation des concerts, ils avaient prévu beaucoup d'artistes queer, féministes. Voilà un témoignage concret.
Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons?
À ton avis, c'est pour quoi faire?
C'est pour faire la bagarre.
Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? Sûrement ce qu'ont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau bas des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais ferme les yeux, c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quads rappliquent, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Une projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne, mais Serge est étendu par terre. Ne se confisque pas, ne se gaspille pas. Les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz. Mais nous on t'a toi.
Soulève-toi et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au basque.
Soulève-toi
et ils vont craquer.
Sauf que nous aussi, on va passer en force.
Soulève-toi.
Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi. Méfiance, méfiance.
Face à l'eau qui dort, les projets de bassine sont morts.
Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la
mer. Mais qu'est-ce qui va dissoudre? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes.
Coude à coude.
Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquider sur champ pour t'exploser aux dents. On est de la mauvaise graine, du chien dent, de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine.
Arval, soulève-toi. Évocation de la débauche de violences policières comme ce 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Mais au lieu de décapiter le mouvement en tentant de réprimer cette manifestation, le pouvoir a au contraire renforcé la mobilisation et lui a donné encore plus de cohésion, comme on le verra en juillet 2024 à Mel dans le Poitou, où s'est tenu le village de l'eau, monté par Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre, avec d'autres organisations comme la Confédération Paysanne ou Sud Solidaire. Pour le moment, retour aux questions-réponses entre le public du bateau ivre avec Mona et Nico, deux des auteurices de Première Secousse, livre génial signé Les Soulèvements de la Terre.
Moi, je voulais revenir sur la question justement de la confrontation et de la coopération, donc de la conjugaison. Enfin, tout ça, ça se triture ensemble en fait, avec le féminisme, avec le queer, avec comment on change le monde, comment on change notre vision du monde. Est-ce que ça commence pas par soi d'abord? Cette question de la confrontation, elle est hyper profonde, parce que chacun de nous, on essaye de ne pas s'isoler par rapport au monde, de rentrer en résonance, puis après de rentrer en coopération, puis parfois en confrontation. La problématique qu'on a, c'est d'essayer de ne pas s'isoler, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de restituer ce que vous faites, et on vous remercie pour ça. Parce que restituer une expérimentation collective qui est en devenir, avec tous ses doutes et ses paradoxes, super compliqué, mais en même temps super joyeux. Et il y a un livre, très beau livre là-dessus, que je vous invite à lire, qui s'appelle « Joie militante » de Caroline Carlson et Montgomery, qui est un super livre. Vous avez parlé de Bernard Lambert. Il faut des fois faire l'effort de retrouver une mémoire, puis de renégocier avec la propagande qui nous a amené vers des labyrinthes, des tunnels de pensée. Et donc, c'est se reprovoquer toujours avec l'histoire, tout en créant des histoires au futur. Donc, je pense que dans votre livre, j'imagine qu'il y a une volonté de raconter une autre histoire, puisque vous parlez d'une organisation politique. Comment pensez-vous qu'on puisse s'organiser politiquement d'une autre manière que cette politique qui nous dégoûte, et donc réenchanter l'engagement dans la volonté qu'on a de changer le monde?
Ouais, c'est une espèce d'immense question comme ça. Un peu. Non mais, ouais, d'accord.
L'aventure est immense.
Ça répond pas complètement à ta question, mais c'est que j'ai oublié dans les intentions du livre, c'est un des trucs qui nous importait. C'était que souvent, là, quand on lit des livres sur des mouvements, on lit des livres sur d'incroyables histoires, je sais pas, sur des mouvements qui sont finis. On lit des livres sur des mouvements 10 ou 20 ans plus tard. Et nous, on avait l'impression que c'était bien d'avoir quelque chose sur une histoire en cours. Et surtout, il y a ce truc où les gens qui parlent des mouvements, c'est pas les gens qui les font souvent. Enfin, vous voyez, les gens qui vont interviewer à la télé, les sociologues, les éditorialistes, les machins. Et ça, ça rend fou. Souvent, les gens qui se sentent, vous voyez, la légitimité de parler des mouvements, c'est pas ceux qui sont en action. Alors, souvent, des fois, c'est parce que quand on est en action, on n'a pas le temps de prendre le recul ou d'écrire, mais c'est aussi parce que des fois, on se sent pas légitime. Et puis, il y en a d'autres, ils se sentent hyper légitimes à parler de nous et de vous. Et on s'est dit que c'était important d'avoir un bouquin qui soit pas écrit par ces gens-là et sur une histoire qui était pas terminée. On y tient, mais ça répond pas à ta question. Mais je non, mais c'est que sinon j'ai l'impression que je vais partir dans un truc.
Je disais, on peut peut-être recentrer sur Terre de Liens et demander à Mona quel rapport entretient les soulèvements avec Terre de Liens et à quel point ce rapport-là peut amener un autre rapport de force ou un rapport de force plus entreprenant, plus engageant, parce qu'ils ont déjà pas mal acquis de terres, ils ont repris des terres, des fermes. Et ils les redistribuent, comment ils le font, voilà.
Je trouve ça très bien ce que fait Terre de Liens, et on a des liens avec eux. Après, simplement, nous, on s'est dit, on ne peut pas ajouter toutes nos forces, à chaque fois surajouter nos forces aux expériences qui existent déjà. Et du coup, à la fois, oui, c'est sûr, on est dans un parti de composition, donc on va faire avec des personnes qui sont dans d'autres organisations comme Terre de Liens. À la fois, nous, notre truc en prod, c'était de dire, on fait des actions de terrain, et on fait des actions impactantes. Mais Terre de Liens, oui, ils ont acquis beaucoup de terres, mais en fait, non, ils ont sauvé 250 fermes, et on dit, c'est ce qui disparaît en France en une semaine. Eux-mêmes le disent, oui, c'est, enfin, moi, je trouve ça très bien, mais juste, c'est complètement insuffisant. Et nous, on part de ce constat-là, que de toute manière, il n'y a pas une solution, qu'il faut vraiment, on multiplie tous les axes d'attaque, donc oui, c'est très bien d'aider Terre de Liens. C'est très bien de donner des sous si vous en avez. Nous, les soulèvements, c'était voilà, de dire vraiment on fait des actions impactantes. Et donc, ce qui redonne aussi de la joie dans l'engagement militant, c'était de dire on repart d'une action en ayant vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les gens, mais aussi sur notre cible. Ça veut dire qu'on a vraiment impacté concrètement la cible. Alors, les dégâts sont quand même très symboliques, mais c'est quand même quelque chose qui est très important et qui est aussi dans la construction de ce qu'on fait ensemble. On essaye toujours vraiment de se donner de la joie pour qu'aussi on revienne tous en manifestation. Et je pense qu'on est tous aussi des personnes qui ont vécu des manifestations classiques dans la rue où on s'est dit bon voilà, on va pas en faire mille comme ça parce qu'au bout d'un moment c'est épuisant.
Je prends la parole au sujet de l'accaparement des terres et de l'association Terre de Liens. Terre de Liens, ce n'est pas une coopérative vraiment. Hein. Terre de Liens achète des fermes ou de la terre avec l'argent des citoyens qui lui donnent de l'argent. Si quelqu'un d'autre veut monter sur le prix de la ferme en question, ce ne sera pas Terre de Liens qui l'aura. Parce que c'est une question de sous, ça. L'accaparement des terres, ça se fait par des gros qui veulent des grosses unités d'exploitation. Comment est-ce qu'on peut reprendre des terres si dans le monde dans lequel on vit là, il n'y a pas de fric? Je sais pas.
Il y a bien 3 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga bassines.
Il y a bien 3 heures qu'on suivait l'anguille
les l'anguille pour aller démonter les méga bassines.
Il y a bien 2 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga bassines.
Il y a bien 2 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga bassines.
Passant par les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Passant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Il y a bien 1 heure qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga bassines.
Il y a bien 1 heure qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les
méga bassines. Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Là, on parle beaucoup de la joie, mais je pense qu'on n'est pas sans savoir tous que l'objectif en face, c'est que les gens repartent avec de la tristesse et de la peur, et que ça joue dans les deux sens, vous voyez. Premier moment, on s'est retrouvés à aller débâcher une bassine avec les camarades de la Confédération paysanne, là, un peu par surprise, et puis on sentait bien que tout le monde avait été nécessaire à ça, autant un peu les autonomes que les paysans, que tout, enfin tout le monde avait été utile au fait d'arriver dans la bassine, puis tu fais une grande boum dessus, et puis t'en repars avec une puissance qui est contagieuse, ce qui fait que les gens sont prêts à revenir la fois d'après, même s'il y a des amendes, même s'il y a des risques, même s'ils savent que peut-être la police va leur taper dessus. Le but face à ça, parce que ça c'est insupportable au pouvoir, que les gens se redonnent cette puissance collective, et du coup ils essayent de la tuer, de la neutraliser, et ça, ça se passe par de la violence d'État, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline, et en fait en réalité, voilà, quand on prend l'histoire des mouvements qui à un moment viennent vraiment emmerder les pouvoirs en place, quoi, économiques ou quoi, soit à un moment ils se font neutraliser, intégrer, prendre dans un truc de cogestion qui fait qu'ils vont perdre cette capacité d'impacter, soit à un moment ils sont réduits, neutralisés par la répression. Et quand on parle de la ligne de crête, c'est comment nous on arrive à trouver une voie, enfin nous, vous, ensemble, qui est ni se refoncer dans un mur type Sainte-Soline, ni renoncer à avoir des manifestations qui impactent. Et ça, vu qu'on est quand même pris relativement au sérieux par le camp d'en face et qu'ils apprennent aussi de comment on fonctionne, bah garder cette voie-là, et il va falloir être malin, quoi. Il va falloir être conséquent, il va falloir être nombreuses et nombreux. Et c'était ça aussi un bilan des 3 ans et demi, c'est que nous on a appris plein de choses en 3 ans et demi, mais l'adversaire a aussi appris de ce qu'on a cherché à susciter. Et on le voit, hein, c'est pas évident, on le voit sur la 69, on le voit sur les bassines, ils sont plus préparés, et faut pas être fataliste face à ça, faut pas renoncer pour autant.
Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le picma enfonce les clous. C'est pour ceux qu'ils ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y'a tant de choses à chérir, à l'affût j'enverrai pas de bouc. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui s'effort, nous sommes les soulèvements de la terre. Sous le couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi. J'aurai plus de visage, tant pis des taxes ça suffira.
Deviens un spectre,
esprit frappeur à fantôme. Pas de sabotage, non, du désarmement. Et c'est ma rage qui veulent dissoudre, je comprends elle n'a pas de prix. C'est l'espoir qui veulent dissoudre, autant assécher la pluie. Mais ils essayent de nous faire taire, c'est là qu'on fait le plus de bruit. Alors je mets feu au bulldozer, c'est pour éclairer la nuit.
Et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au bas.
Soulève-toi.
Et ils vont craquer.
Sauf que nous aussi, on va passer en France.
Soulève-toi.
Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi. Confiance, confiance.
Ceux qui repoussent partout ne peuvent être dissous.
L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être.
Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi. Ce sera le calme avant la fête.
Deux questions sur votre stratégie de désarmement avec l'idée de Sainte-Soline en tête. C'est premièrement la surprise de la brutalité de la confrontation. Pourquoi avoir supposé que l'État n'userait pas de la brutalité nécessaire pour faire valoir ce qu'il estime être son intérêt? Et deuxième question, c'est pourquoi avoir cédé à une confrontation frontale vu l'état du rapport de force?
Voilà, question très complexe. Il y a eu 2 manifestations à Sainte-Soline. Il y a une première quelques mois avant la manifestation qui a été la plus médiatisée et la plus traumatique, on va dire. Si on parle d'affect collectif, alors c'est toujours, je vais dire des choses assez générales et qui mériteraient plus de complexité, mais la manifestation de Sainte-Soline 1 en octobre, où les gens ont réussi à rentrer dans la bassine, à enlever les grilles, les dommages sont assez symboliques. En réalité, ça arrête le chantier pour 2 ou 3 semaines, parce qu'il faut qu'ils remettent les grilles. Mais l'impact politique et symbolique est immense. Tout le monde parle des bassines, il y a un truc qui dit on peut y aller, etc. Il y a quelque chose qui est assez inacceptable pour eux, parce que au-delà des grilles, ça porte réellement atteinte à la possibilité du système bassiné. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé à Sainte-Soline 2 sur pourquoi il y a quelque chose qui se reproduit alors qu'on sait très bien qu'il ne faut peut-être jamais 2 fois tenter le même geste à l'identique. Pourquoi on n'a pas forcément anticipé collectivement le fait qu'il ferait juste un fortin quoi, et qu'il serait prêt à brutaliser de cette manière-là les manifestants. On s'est beaucoup demandé, mais pourquoi ils défendent de cette manière-là un cratère vide? Et pourquoi nous, on s'y attaque? Et en fait, au-delà du cratère vide, on voit bien ce qui joue pour l'État, c'est le symbole qu'il est capable de faire respecter et les intérêts des industriels et un certain type de propriété privée. Et il est prêt à mettre beaucoup là-dedans, parce qu'on sait bien que si on avait réussi une deuxième fois, ça allait de nouveau bien au-delà des grilles et du chantier en question. Et a posteriori, moi, je ne suis pas si surpris qu'il ait employé cette force. On peut être surpris du degré de force, à quel point il est prêt à ce point-là à prendre le risque de tuer, en réalité. Et ça, en fait, c'est traumatique pour tout le monde. Et en premier lieu, pour les personnes blessées, c'est très questionnant pour nous. Enfin, quand on porte la charge d'une organisation avec d'autres, on se pose plein de questions. On n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit. Enfin, c'est très problématique d'envoyer des gens dans des situations où les gens peuvent être blessés fortement. En même temps, on ne veut pas faire des manifs qui renoncent à être effectifs. Du coup, c'est des questions qui, après, te prennent à bras-le-corps pendant des mois sur qu'est-ce que tu fais après. D'ailleurs, la première chose qu'on a fait après, c'était un convoi assez tranquille de 700 personnes à vélo. On se redonnait beaucoup de joie ensemble, où il n'y avait peut-être pas beaucoup d'action directe. On a bloqué un boulevard pendant 2 jours devant l'agence de l'eau. Et c'est très important, quand l'État a cherché à créer cet effet de terreur, de se redonner une confiance collective. Et sur pourquoi c'était fait de cette manière-là à Sainte-Soline, bah, je pense qu'il y a des effets où à un moment, tu as beaucoup de choses qui tendent à te faire dire « Ah oui, il faut réessayer une deuxième fois, c'est important. » Et à des moments, il faut bien accepter qu'il y a aussi des points aveugles dans comment tu penses une organisation. Tu dis « Ah oui, on n'avait pas pensé qu'il ferait ça de cette manière-là. » Et on a fait, à cet endroit-là, je considère qu'on a fait une erreur, parce que personne ne peut se réjouir de l'issue de cette manifestation. Quand bien même, ça a fait qu'énormément de gens ont porter un soutien complètement fou après, que ça a parlé encore plus des bassines. Enfin, vous voyez, ça n'a pas été sur tous les champs juste une défaite et juste quelque chose de mauvais, mais sur cet aspect-là, en tout cas, il y a eu un pan énorme de cette manif qu'on peut considérer comme une erreur. Enfin, c'est pas aller là où ça devrait aller. Et du coup, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en apprend, qu'est-ce qu'on fait de différent avec des gens dont on sait qu'ils sont prêts à nous attaquer, qu'est-ce qu'il faut aussi que les gens se sentent voyez, en confiance à revenir sur une prochaine mobilisation comme ça. Et pour autant, bah, on espère que beaucoup de gens vont revenir, on espère ne pas, et on a pris la décision en coordination de ne pas rejouer une situation frontale de type Sainte-Soline, on ne va pas repartir avec les gens sur un château fort policier de cette manière-là. Donc voilà, on se creuse la tête depuis des mois sur comment on fait différemment et comment on le fait différemment avec vous. Voilà.
Question autour des soulèvements de la Terre et l'altermondialisme. En ce moment, dans le monde, il y a des endroits où on prend les terres, on prend les villes, on tue des gens. Je pense à la Palestine, où il y a un parti pris de la part des soulèvements de la terre, mais où dans les luttes autour de ce qui se passe à Rafah, moi je ne vois pas beaucoup de gens des soulèvements de la terre. Dans les manifestations qui ont lieu tous les samedis à 15h, il n'y a pas beaucoup de monde. Et je ne vois pas pourquoi les soulèvements de la terre, ils ne sont pas. Parce que merde, il y a des colonialistes, il y a Netanyahou, Israël, qui s'emparent des terres d'un autre peuple. C'est vraiment une illustration de ce que ne veulent pas les soulèvements de la Terre. Et on n'est pas là. Voilà.
Il y a eu une volonté, notamment qui venait de comités locaux, de Rennes, de Paris, d'autres comités, qui aient des actions qui se fassent sur la question du soutien au peuple palestinien. Il y a eu des journées d'action qui se sont faites contre Carrefour en lien avec des comités de soutien au peuple palestinien. Et je pense qu'il y a, j'imagine, ça dépend des endroits, en tout cas pas mal de comités qui sont engagé sur cette question-là, j'espère, et voilà.
Dernière question, et puis ensuite on aura la récite de l'arpentage. Oui, je vais essayer de faire vite juste sur cette question, mais qui est en lien direct avec la question sur le féminisme, la question queer, et qui recoupe aussi la question à l'instant là, sur la Palestine. Le bouquin aborde en partie la question décoloniale. Il y a une prise de parole tout à l'heure sur cet entre-soi qui est un constat un peu redondant dans nos luttes. On le voit encore aujourd'hui, toujours un certain entre-soi de couleur et de classe quand même, qui est assez redondant. Et la question décoloniale est abordée assez clairement dans le bouquin. Moi, j'ai été assez touché par des initiatives qui ont été faites dans le passé, notamment avec le collectif Adama, ou récemment à l'appel à rejoindre l'anniversaire contre les rassemblements autour de la mort de Naël. Pour moi, en fait, il y a une volonté commune, mais tout comme le mouvement, dans sa naissance, n'était pas un mouvement féministe, un mouvement queer, et pourtant, on voit que dans les mobilisations, aujourd'hui, il y a des vrais cortèges, il y a une vraie dynamique sur scène, et que ça fonctionne, et que c'est une question qui devient centrale. Comment est-ce que la dynamique qui est déjà inhérente au mouvement sur la question décoloniale et sur la question de comment est-ce qu'on est composé, qui résonne d'autant plus aujourd'hui avec le contexte politique actuel, comment est-ce que, à la fois, cette question décoloniale et cette question de la composition du mouvement vous traverse pour se diversifier, faire ensemble, toujours plus largement?
J'ai le sentiment ou la certitude que ces derniers mois, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de rencontres qu'au début des soulèvements avec des collectifs antiracistes et des coloniaux. Des rencontres théoriques, politiques, mais ça a été aussi, comme souvent, on est parti de « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour intervenir dans des situations dont j'ai cité ce qui s'est passé là sur les actions communes sur Carrefour. » Et après, il y a des actions communes qui sont pensées avec des collectifs qui souhaitent se battre sur la question et des armes de la police, de leur usage, et contre les manifestants, et dans les quartiers populaires, et de l'industrie de l'armement, et en particulier de l'armement qui part du côté de l'armée israélienne. Il faudrait qu'on trouve des formes d'intervention communes, d'action collective, massive, d'action directe sur ces enjeux-là, sur ces infrastructures. Bah, ça permet de se rencontrer, de croiser des regards, et en tout cas là, un des endroits par où ça passe. Et ça permet peut-être de faire la jonction avec la question de comment la situation actuelle, la séquence électorale joue sur le village de l'eau. On a pensé beaucoup plus d'interventions de ces collectifs-là, des coloniaux antiracistes. Au vu de la situation, ça paraissait assez évident dans ce qui va se dire, s'échanger sur les tables rondes sur le village de l'eau. Et après, je te réponds que très partiellement, parce que c'est comme les actions avec les gilets noirs, c'est des choses en travail, je sais pas, c'est des rencontres. On va pas prétendre qu'on est ce qu'on n'est pas encore, quoi, être ce qu'on n'est pas encore. On prétend juste qu'on le met en travail.
Dernièrement, vous avez écrit un texte qui s'appelle Pour un soulèvement antifasciste. Du coup, j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus les perspectives. Voilà.
En réalité, comme plein de gens dans ce pays, plein d'orgas aussi, on est en train de se demander ce que ça va produire, ce moment de possible bascule politique, et que dans tous les cas, quel que soit le résultat de l'élection de dimanche, on voit bien qu'il va falloir prendre la question de la riposte antifasciste d'une manière beaucoup plus conséquente. On participe à plein de rencontres inter-orgas au niveau national, local, il y a plein de gens aussi qui sont un peu paumés, vous voyez, toutes les orgas, enfin, j'imagine, vous le savez, qui faisaient du plaidoyer, qui faisait des propositions là, dont c'était la vocation. On va pas continuer à faire ça, c'est un gouvernement d'extrême droite, c'est juste pas possible. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel autre champ d'intervention, d'action on arrive? On se demande tout un chacun quelle va être la réaction immédiate à l'élection, mais aussi qu'est-ce qui va se construire. On parle beaucoup avec nos camarades de Terre de Lutte sur des résistances locales, notamment dans des territoires ruraux à long terme. Et après, une campagne qu'on met en travail avec d'autres orgas, alors là, sur un champ très large de composition d'orgas féministes, décoloniales, antiracistes, écologistes, d'orgas qui bossent sur le champ des médias, c'est la question de mener, de penser ce que serait une campagne d'action sur le groupe Bolloré, pour des raisons qui vont sembler assez évidentes à tout le monde, mais qui ne cessent pas de nous prendre de manière très forte, parce que je pense que ça a été un moment de prise de conscience d'à quel point il y avait une puissance financière, économique, qui de manière méthodique essayait de créer une espèce de d'impérialisme culturel, d'emprise culturelle des idées d'extrême droite, mais aussi juste de les mettre au pouvoir, quoi, de s'organiser pour ça et les financer pour ça, et qu'il se trouve que cette puissance, ce groupe Bolloré, c'est aussi un groupe qui intervient, peut-être vous le savez, il y a toute une branche Bolloré énergie, de pétrole, il y a une branche Bolloré d'agriculture coloniale, d'implantation en Afrique et en Asie, notamment sur l'huile de palme. Il y a tout un pan d'industrie de Bolloré qui est sur les technologies de smart cities, de contrôle, de surveillance, de traçabilité. Le type, il est conséquent, il est cohérent, quoi. Il fait ça. Et il y avait tout un empire logistique qu'il a beaucoup revendu, là, notamment pour pouvoir financer des médias pour l'extrême droite, mais qui est parti aux mains de Saadé, qui est propriétaire de BFM TV maintenant. En tout cas, voilà, il y a beaucoup là, de champs d'enquête sur Bolloré, et de se dire, en réalité, ça va faire partie de la riposte antifasciste, d'avoir une espèce de pression sur les puissances économiques qui méthodiquement les appuient, les mettent au pouvoir. Et voilà, ça, c'est une partie de réponse. En tout cas, avec d'autres organisations, on travaille là-dessus. Mais on n'en fait pas la fin et la chose ultime à faire. C'est un des moyens, un des leviers à penser parmi plein d'autres au vu de la situation.
On va laisser la place à l'arpentage.
J'ai choisi un texte et ça fait référence à les occupations de quatre centrales ou autres à béton, préalablement en fait à la création même des soulèvements de la terre. Tout juste sur place, des camions s'arrêtent aux grilles et déchargent peinture, blouses blanches, masques, chaînes et cadenas, cordes et matériel de grimpe, bâches, nourriture et mégaphones. L'un après l'autre, chaque site est ravitaillé. Sans cette opération, les blocages auraient difficilement tenu. On se part de combinaisons blanches et de masques de couleur. Sur les quatre sites du haut des malaxeurs et des fours, on embrasse des fumigènes. Les sites industriels deviennent de grands terrains de jeu. De la peinture et des rouleaux sont distribués, on descend en rappel des toits des bâtiments. C'est le rêve de n'importe quelle équipe de graphes. Les sites sont tellement grands que les énormes tags se répondent d'un bout à l'autre du port. Qui sème le béton aura bientôt la dalle. La farge plus Daesh égale un cœur avec des mains, enfin ou sans les mains. Construire à en crever et un trait programmatique, désarmons le béton. Partout, des messages sont laissés, des minuscules détournements sur les panneaux d'entrée aux gigantesques banderoles. La farge et Equium ne sont plus chez eux. D'ailleurs, un logo géant des soulèvements de la terre, toujours présent au sommet d'un des silos, nous salue quand on roule sur le périphérique au-dessus du port de Gennevilliers. En bas, on s'active aussi, les sacs de sable et de ciment servent à construire des barricades le long des grilles pour empêcher tout véhicule d'y rentrer. Sur un des sites, l'opération se fait en collaboration avec un ouvrier armé d'un transpalette. Déplacer les sacs de ciment devient diablement plus efficace. La rencontre avec les habitués ES du site se poursuit à proximité des camions venus charger du béton. Les chauffeurs semblent amusés. On devine des sourires. Certains ne sont pas surpris et nous parlent des précédentes actions. Plutôt que de les bloquer, nous décidons d'engager la conversation et de les laisser repartir. Cette attitude permet d'éviter la confrontation et d'engager le dialogue. C'est un début qui, disons-le, en restera là pour cette fois. Mais c'est une piste à creuser, un stade à dépasser. Comment rassembler les travailleurs, travailleuses du BTP et des mouvements écologistes, les combats sociaux et la nécessité d'arrêter la machine. Une fois la sécurité des lieux assurée, on fait le tour du propriétaire. Côté dépôt de granulats, on coupe les grilles entre les deux sites pour laisser un passage. Côté cimenterie, on franchit la rivière en canot pour occuper brièvement un cinquième site de l'entreprise Vicat. Partout, on découvre des pelleteuses et toute une machinerie pour acheminer et transformer le sable en béton. Sur le sable, on installe un terrain de volée. On tend des bâches pour protéger les assemblées et les repas. Des nouvelles des autres sites nous parviennent. On comprend qu'à la cimenterie, l'ambiance est légèrement différente. Le site est ultra moderne. Au charme des engrenages rouillés s'ajoute celui des commandes électroniques et des ordinateurs. En lieu et place des Algeco, on trouve de véritables bureaux dans une tour de plusieurs étages. Avec la pluie et la nuit qui pointent, on ne tarde pas à les ouvrir pour s'y réfugier. Dans l'allégresse, des ordinateurs passent par la fenêtre. Le blocage du site a pris une nouvelle ampleur. Les sacs de ciment sont éventrés, mélangés à l'eau et répandus sur la voie ferrée. Voilà, ça continue encore 12 heures, 24 heures. Mais bon, là j'arrête.
On voulait en profiter là, de la présentation du livre pour faire une présentation de la mobilisation contre les mégabassines qui a lieu du 16 au 21 juillet. Toute la semaine, il va y avoir un village de l'eau à Mel dans le Poitou. Donc c'est le maire qui très courageusement et gentiment nous réaccueille une seconde fois à Mel. Donc si vous étiez allé à Sainte-Soline 2, il y avait le dimanche, le samedi soir, les concerts et les assemblées qui avaient lieu donc, dans la ville de Mel. Donc là, c'est dans une ferme qui appartient à la municipalité. Du coup, il y a vraiment un programme qui est impressionnant. par journée, il y a des thématiques. Donc, il y a à la fois aussi bien des débats et des tables rondes d'information sur la qualité de l'eau, l'agriculture, les sécheresses et les politiques d'accaparement de l'eau dans plein de pays, notamment en Amérique latine, en Espagne. Il va y avoir plein de trucs sur les méga-bassines, mieux les comprendre, comment on les désarme, qu'est-ce que le modèle agro-industriel, plein d'axes comme ça. Et il va y avoir plein d'ateliers pratiques, donc comme je l'ai dit, de formation sur lutter contre la répression, venir en manifestation ensemble. Il y a des projections. Voilà. Moi, je n'ai pas préparé le programme, mais je l'ai vu et j'ai trouvé ça vraiment assez impressionnant, très, très intéressant. Il y aura vraiment plein de chapiteaux et des tables rondes un peu partout. Il va y avoir aussi des assemblées de collectifs en lutte contre des fermes-usines, contre l'industrie du béton, contre les routes, contre les carrières de sable. Et les deux grandes journées de manif, c'est le vendredi et le samedi. On peut déjà dire qu'il y aura une manifestation qui sera plus côté Vienne contre, en fait, l'État a réannoncé, malgré la Cour des comptes qui, en fait, retoque les bassines en disant que vraiment, ça ne prend pas en compte le changement climatique et que ça fait prendre le mauvais pas au gouvernement. Malgré le fait que, voilà, il y a 15 projets de bassines qui ont été annulés par des tribunaux, il y en a 5 qui ont été construites puis jugées illégales. Malgré toute cette situation-là, il y a un peu le gouvernement qui s'entête et qui a réannoncé la construction de 100 nouvelles méga-bassines cette année, et qui a fait passer dans la loi d'orientation agricole les méga-bassines comme intérêt général majeur, ce qui permet de raccourcir la durée où on pouvait faire des recours juridiques contre les méga-bassines. La durée est réduite de moitié, et aussi ça permet de piétiner plein de protections environnementales qui étaient assurées. Donc l'État vraiment s'entête et il va vraiment à coups de pelle. À côté de cette obsession gouvernementale, finalement, les chantiers n'avancent pas tant. Donc là, le chantier à Sainte-Soline, il stagne. Mais il y a deux chantiers qui sont commencés, des méga-bassines des Deux-Sèvres, là, des 6 méga-bassines qui devaient être construites dans les Deux-Sèvres, à Prières et Épannes. Voilà. Mais donc, à côté des Deux-Sèvres, il y a un autre territoire, la Vienne, où il y a d'autres méga-bassines qui sont annoncées, mais pas encore construites. Et donc, c'est dans ce territoire-là que va avoir lieu une des deux journées manifaction dans la Vienne. Pour voilà, notamment lutter contre ces prochaines méga-bassines. L'autre action, elle portera plutôt autour de la thématique, autour du port de La Rochelle. Là, le port, il est en train d'être agrandi, et l'agrandissement du port, il est justifié aussi par toutes les méga-bassines qui vont se faire. Le port, c'est là où sont importés les pesticides qui servent aux cultures irriguées par les méga-bassines. C'est là aussi où le blé arrosé par les méga-bassines et exporté dans plein de pays, et aussi où il y a une spéculation financière sur ce blé qui crée une instabilité des prix qui vont mettre à mal l'agriculture dans d'autres pays. Tout ça se joue au port, et donc il va y avoir une action autour du port de La Rochelle. Il y a des convois qui sont organisés. Il y a une quinzaine de convois qui sont organisés et qui partent le 13-14 pour rejoindre le village de l'eau. Et sinon, vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site de Bassinon-Mercier, des soulèvements de la terre, quoi, pour avoir d'autres informations. Je pense que c'est très important de venir parce qu'on est un peu à l'État sans tête, et en même temps, il y a des méga-bassines qui ont été désarmées ou annulées par la justice. Donc c'est vraiment le moment d'insister sur la lutte et de, après Sainte-Soline 2, montrer qu'on est toujours là.
Toujours là, et de mieux en mieux, comme vous le verrez dans la série d'émissions à venir autour de cet enthousiasmant village de l'eau qui s'est tenu à Mel dans le Poitou en juillet 2024. Loin d'anéantir la fronde anti-bassine, la répression de Sainte-Soline a au contraire renforcé la lutte et a généré encore plus de cohérence et de conscience. Et ça, on va donc longuement vous le raconter dans cette prochaine série d'émissions à venir. En attendant, merci à Mona et Nico, deux des auteuristes de Première Secousse, un livre important, intelligent, qui se lit facilement et qui fait du bien, publié aux éditions La Fabrique. À lire absolument. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com, avant qu'on ne se retrouve très prochainement sur votre radio préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut !
Il n'y a plus de flics dans la bassine, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on se fait chier?
Tous les flics sont dans la bassine, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on se fait chier?
Ah, la bassine.